On en parle. Yves Alain Cornu. Le guichet.
C'est vendredi, c'est cuisine dont on en parle avec vous, Antoine Droux. Après avoir consacré l'émission de la semaine dernière à la viande de gibier, nous allons, comme promis, nous concentrer ce matin sur les garnitures chasse.
Que se passe-t-il quand le chasseur revient bredouille ? Eh bien, il faut se contenter des garnitures. Mais pas question de tambouille. Heureusement, avec ces plats de saison, même en enlevant la venaison, il reste de multiples combinaisons. Les classiques d'abord, avec les Spätzli, Spätzli comme Spätzlein, petit moineau, oui, comme un Spatz, de quoi gazouiller de bonheur quand il chante dans le beurre. D'ailleurs, vous les préférez comment, vous, les Spätzli, gouléants ou croustillants? Il y a du rouge aussi dans cette assiette de garniture chasse, oui, même sans viande, des choux rouges, des poireaux vins rouges, des airelles rouge, et quand ça passe au vert, on croise un chou de Bruxelles. Mais attention, pas trop cuit, sinon il devient gris.
Là, on joue donc une partition standard, classique, vous le disiez Antoine, quoique magnifiquement racontée. Mais on peut aussi oser l'originalité, on peut laisser parler la créativité.
Mousseline de panais au curry. Avec de la courge, on fait des gnocchis. Chiffonnade de choux de Bruxelles aux agrumes et huile de noix. Tranche d'ananas rôti au sirop d'érable. Coin en chutney ou rôti au four au piment d'Espelette. Et si vous tenez mordicus à la compotée d'airelles, ajoutez-y une touche de citron vert. Et si vous n'envisagez pas un plat de chasse sans Spätzli, variez la farine en ajustant à la châtaigne, par exemple. Pour accompagner votre sel de chevreuil ou votre civet de sanglier, optez pour une poire caramélisée plutôt que pochée, pour des racines de cerfeuil ou de persil, surtout si elles sont bien accommodées. Confectionnez une purée d'orange ou de pruneau. Oui, oui, ça irait bien avec un perdreau. Vous pouvez même opter pour des baies d'églantier. Mais n'oubliez pas, dans ce cas, que ce n'est pas pour rien qu'on appelle aussi ces cynorhodons des gratte-cul. Vous voilà prévenus.
Nous voilà prévenus et nous voilà mis l'eau à la bouche. Un chasseur sachant chasser sans Spätzli. Voilà, ça permet d'apprendre sa diction. Deux spécialistes sont dans la radio ce matin pour nous parler de garniture chasse original. Il y a Jérôme Binder, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur et le directeur de l'atelier culinaire Parfum d'épices à Crissier, dans le canton de Vaud. Quel lien est-ce que vous tissez entre ces épices que vous aimez tant et les garnitures chasse ?
Alors, c'est vrai que les épices, ça fait voyager. Et même si on voyage un peu plus localement avec la chasse, on peut se permettre effectivement des saveurs un petit peu automnales. Je pense par exemple au garam masala, au rasélanout, qui fonctionnent très bien avec ces saveurs un peu de sous-bois et qui vont très très bien avec certaines garnitures de chasse.
Vous misez d'ailleurs sur des garnitures chasse revisitées chez Parfum d'épices. Vous avez un cours d'ailleurs sur ces garnitures chasse, ce menu de chasse revisité. Pourquoi c'est important de le revisiter pour vous, Jérôme Binder ?
Parce que voilà, la cuisine c'est créatif, il faut se faire plaisir, et puis c'est vrai qu'on a revu certaines préparations voilà depuis des décennies. Et nous, un petit peu notre motto ici à l'atelier à Crissier, c'est de faire découvrir des nouvelles choses aux gens, que ce soit la chasse ou d'autres menus, hein, un petit peu fusion, où on a travaillé les saveurs, les mélanges d'origine, mais tout en travaillant avec des produits locaux et de saison.
Franchement, l'ananas caramélisé au sirop d'érable, c'est pas un peu too much avec du chevreuil, c'est pas un peu trop sucré, Jérôme Binder?
Pas du tout, on a l'habitude d'avoir des accompagnements un peu sucrés. Alors effectivement, il faut pas abuser sur le sirop d'érable, il faut le booster un petit peu avec un peu de fleur de sel, avec un peu de piment d'Espelette. Mais vous allez voir, on va pas le voir ce matin, mais c'est merveilleux.
On vous croit sur parole.
On était surpris la semaine dernière d'entendre autant de romandes et de romans qui cuisinent eux-mêmes la chasse à la maison. C'est pas uniquement le plat, toujours le même, de restaurant. Donc peut-être que ces idées de garniture sont sacrilèges à leurs oreilles, ou au contraire, ça leur donne plein d'idées. Dans tous les cas, vous pouvez nous appeler au 0800 108 208 dès maintenant pour partager ces astuces, ces recettes culinaires autour des garnitures chasse. 0800 108 208. À côté de vous, Jérôme Binder, nous avons une deuxième invitée, Brigitte Streif. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes présidente de Slow Food Vaud, l'organisation Slow Food qui est d'ailleurs l'invitée d'honneur de la fête de la châtaigne ce week-end à Fuy, en Valais. C'est 300 stands, 40 000 visiteurs, une institution, la châtaigne. Quels produits vous allez défendre auprès de ce public ?
Alors déjà, tous les produits que de la Suisse romande, des producteurs qui soutiennent le mouvement Slow Food, parce que c'est un mouvement, et effectivement aussi des producteurs qui mettent en avant avec énormément de passion les produits que Slow Food protège parce qu'ils sont en voie de disparition. Et nous aurons effectivement, par exemple, on est dans la viande, le schantzé. Alors le schantzé, c'est quoi? C'est en fait une saucisse au chou, au sang, qui n'est plus fabriquée que par un boucher, Monsieur Morier, à Létiva. Et donc, il va venir proposer de faire découvrir cette saucisse. Nous aurons évidemment le vacherin fribourgeois au lait cru. Parce que c'est ça qui est important. Nous aurons le pain de seigle valaisan qui n'est fait qu'avec du levain pur et par une boulangerie à Saint-Plon village et plein d'autres produits incroyables. Voilà, ouais. Ça va être venez parce que ça va être magnifique.
Ah ça c'est ce week-end à Fuyi.
Hein.
D'ailleurs la châtaigne avec la chasse forcément oui. ça résonne parce qu'on en a plein sur nos assiettes de chasse des châtaignes glacées, des marrons glacés, c'est ce qu'on en fait.
Et même des vins aussi affinés mis dans des fûts de châtaignier. Qui donne ce goût de châtaigne à des vins incroyables.
Bon, c'est peut-être encore un peu tôt pour le vin, mais
on est d'accord.
On verra, on va attendre, comme d'habitude, qu'il y ait deux chiffres sur l'horloge pour déboucher la première bouteille. Mais Brigitte Schreif, vous avez aussi amené un de ces produits ce matin qui s'appelle Farina Bona. Oui. Ça veut simplement dire en italien la bonne farine. C'est un produit tessinois. Ça aussi, c'est intéressant pour les garnitures chasse. On pourrait, par exemple, utiliser un peu de cette farine pour faire des spätzli, c'est ça? Qu'est-ce que ça changerait?
Le goût.
Et ça deviendrait comment ce goût alors?
Un petit goût de pop-corn.
Parce que là, vous nous avez amené une glace à la Farina Bona. Vous nous expliquez en deux mots comment est-ce qu'elle se fabrique?
Alors la glace à la Farina Bona, c'est quelque chose de très très simple. C'est simplement du lait, de la crème. Cette Farina Bona qui est une farine de maïs grillé, maïs de maïs variété ancienne, qui est grillée et vraiment moulu très fine à la pierre dans le Valle Ansernone au Tessin. Et cette farine est très fine. Et donc, en mixant le tout, on turbine ensuite. Et voilà. Et je vois les yeux d'Antoine Roux en face de moi qui ça.
On est en train de goûter tout de suite.
Bah, ça réveille et on sent effectivement la farine, on sent ce maïs, et on sent cette glace. Jérôme Binder, ça pour faire des spätzli, pour utiliser cette farine dans la cuisine justement de chasse, ça rajoute quoi selon vous?
Ah ben c'est sûr, ça rajoute justement ce petit goût un petit peu grillé, original. Et effectivement, ça remplace la farine de châtaigne qu'on peut mettre dans les spätzli ou les knöpfli. Alors voilà, il faut en mettre par parcimonie, hein. Mais c'est super intéressant, effectivement.
Merci d'être venu avec cette petite glacière échantillon. Brigitte Streif, c'est vrai que c'est très intéressant, cette glace à la farine de châtaigne. Hein. Ça donne quelque chose de très intéressant.
C'est pas de la farine de châtaigne, c'est la farine de maïs, pardon, la farine à bona.
Oui, c'est un petit goût pop-corn comme ça.
Ouais, exactement. Mm-hmm. Bon, c'est difficile de reparler après.
Oui, hein, non, puis surtout, je me disais, ok, mais là, on est dans la chasse, garniture chasse. Oui, comment est-ce que tout ça, on le rend acceptable pour le public qui, quand il veut la chasse, il veut les spätzli, les choux rouges, la poire au vin. Jérôme Binder, c'est toujours un peu délicat de proposer aux gens de s'écarter s'ils font leur menu une fois dans l'année, de se dire, cette année, ils font pas comme d'habitude.
Non, je crois pas. Et puis, surtout, on a toujours tendance un petit peu à avoir des repas chasse très lourds, difficiles un petit peu à digérer. Moi, je ne suis pas un grand adepte des féculents avec la chasse. Je trouve que la chasse, voilà, c'est la viande, c'est la sauce. Et puis les accompagnements, ça doit rester léger. On doit pouvoir sortir de son repas chasse, alors pas avec en ayant faim, bien entendu, mais voilà, en n'étant pas forcément lourd. Et c'est pour ça que moi, je privilégie plus des mousselines, des petites purées de céleri ou de panais en accompagnant, qui peuvent remplacer finalement un féculent. Et les gens, une fois qu'ils ont vécu l'expérience, peut-être reviendront plus jamais en arrière avec des spätzli ou des knöpfli, mais j'aime aussi ça, hein, les knöpfli, les spätzli, c'est très bon.
Oui, d'ailleurs, si notre public ce matin a des questions sur comment faire les spätzli, comment faire pour qu'ils gonflent, comment est-ce qu'on peut les servir, comment est-ce qu'on fait braiser des choux rouges, Jérôme Binder est tout à fait prêt, je m'en suis assuré avant l'émission avec lui, ainsi que Brigitte Streif, pour donner quelques conseils pour bien réussir ces garnitures chasse classiques. On attend bien sûr les appels au standard.
Au 0800 108 208, ce guichet se veut bien sûr interactif, 0800 108 208, le numéro est gratuit, vous pouvez
laisser des messages vocaux aussi avec toutes les applis de messagerie habituelles au 076 206 12 12 et vous pouvez même nous écrire un email si vous préférez à onenparle@rts.ch. On verra peut-être notamment les spätzli, vous disiez Antoine Drou en introduction, sur les préférés un peu comme ça tendres ou plutôt croquants et soufflés.
Il y a deux écoles. Hein.
Il y a deux écoles. Moi j'aime bien quand ils sont comme ça, qu'on sent qu'ils sont soufflés.
Ah moi je les aime plutôt gouléants.
Ah alors le match, on demandera aux experts ce qu'ils en pensent juste après avoir écouté Lisa Oribasi.
0800 108 208,
c'est le numéro gratuit à composer pour participer avec nous en direct à ce guichet cuisine consacré aux garnitures de la chasse ce matin avec vous Antoine Drou et vos deux invités.
Il y a dans le studio Brigitte Streif, présidente de Slow Food Vaud, et Jérôme Binder, fondateur et directeur de Parfums d'Épices à Crissier. Vous cuisinez à quatre mains hein, dans cet atelier culinaire. Jérôme Binder, quand même un mot des spätzli, même si on a compris, vous n'êtes pas le plus grand fan hein, de ces petits moineaux, hein, comme je l'ai dit en début d'émission.
Déjà pour nous départager, puisqu'on était parti sur... Moi, le plutôt croquant, vous, le plutôt mou, imbibé.
Gouléant, vous préférez
gouléant,
quoi?
Alors, pardon, j'étais un peu...
Ouais, c'est égal, mais on a compris.
J'ai influencé.
Ouais, je préfère aussi un petit peu gouléant. Je trouve des fois, on a tendance à les rendre un peu trop secs quand on les rôtit. Alors, si c'est moelleux à l'intérieur et rôti à l'extérieur, c'est parfait, mais c'est vrai que c'est des fois, ça a tendance à dessécher. Et je trouve c'est dommage avec une chasse. Voilà, après, ça vient un peu...
Brigitte Streif, vous nous départagez?
Alors, je ne sais pas, je crois pas. On va être équitable, parce que moi, je les aime bien croustillants à l'extérieur et très moelleux à l'intérieur.
Comment est-ce qu'on fait des spätzli? Alors déjà, spätzli, knöpfli, comme ça, on évacue tout de suite la différence.
Alors oui, c'est la forme. Hein. En fait, les knöpfli, c'est des petits boutons en suisse allemand ou en allemand. Donc, c'est la râpe. On va faire des petites gouttelettes qu'on va faire cuire, bouillir dans l'eau. Tandis que les spätzli, voilà, on va les faire plutôt des petits ligaments comme ça qu'on va faire tomber dans l'eau. Donc, c'est simplement la forme qui change, mais la pâte est la même. Hein. Donc c'est un mélange de farine, d'eau, de lait, d'œuf, et puis de sel. Et puis après, on peut agrémenter ça justement de farine spéciale, comme on a dit tout à l'heure, hein, de la farine à bona ou la farine de châtaigne. Mais voilà, à la base, c'est assez simple. Hein.
Comment est-ce qu'on fait si on veut agrémenter ça, des spätzli ou des knöpfli, avec d'autres farines, comment ça se passe en matière de proportion? Est-ce que, par exemple, avec cette farine à bona, on fait du temps pour temps, ou bien est-ce qu'on met quand même un peu de la farine blanche, Brigitte Streif, avec?
Alors, c'est mieux quand même de rajouter de la farine blanche, parce que déjà, le goût est très, très intense. Et puis, ça va aussi mieux se lier, c'est de la farine de maïs. Donc, la texture est différente. Et si on veut que le spätzli ou le knöpfli prenne, il faut quand même mettre, je dirais, entre un tiers et un quart seulement, pas plus de farine à bonne.
Alors, on a notre pâte à spätzli maintenant. Hein. Maintenant, il faut les cuire. Alors, soit filament spätzli, soit bouton knöpfli. Gros volume d'eau. Ça, c'est très, très important, Jérôme Bitter.
Oui, bien sûr. Il ne faut pas qu'ils collent les uns contre les autres. Et puis, il faut qu'ils aillent la place pour pouvoir remonter à la surface. Et puis après, hein, tout de suite, on va les évacuer. Une fois qu'ils ont remonté à la surface, dans un bol avec de l'eau bien froide pour couper la cuisson, éviter qu'ils collent, quoi.
Et après, une fois, on les égoutte de nouveau de cette eau fraîche. Ils sont froids. On met un petit peu de matière grasse dessus pour qu'ils collent pas ensemble.
Exactement.
Au beurre fondu, ou huile d'olive. Ouais,
peut-être pas l'huile d'olive, mais.
Huile d'arachide ou une huile de colza,
peut-être. Voilà.
Est-ce qu'on peut mettre l'huile dans l'eau de cuisson directement pour éviter que ça colle?
Non, mais ça sert à rien. C'est une légende urbaine. L'huile remonte à la surface, donc ça ne va pas aider forcément. Voilà. Mais après, une fois qu'ils sont cuits, oui.
Une fois qu'ils sont cuits, on les a rafraîchis, on les a égouttés, on met un petit peu de matière grasse pour pas qu'ils collent. Et puis là, on s'éclate, on les cuit au beurre, on les réchauffe avec du beurre frais, c'est bien ça?
Alors oui, tout à fait. Après, on peut le faire à l'huile aussi. Mais c'est vrai que la chasse, voilà, on est en automne, on a envie un petit peu de se réjouir sur les matières grasses, un petit peu plus que d'habitude. Donc on va se lâcher un peu sur un bon beurre. On peut prendre un beurre salé aussi, pourquoi pas, mi-salé, hein, c'est bien. Après, on peut faire moitié-moitié. On peut faire aussi, moitié huile d'olive, moitié beurre. Mais voilà, faut pas que l'huile d'olive marque trop le goût de la préparation.
Tant qu'on en est à casser des légendes urbaines, hein, vous dites pas besoin de mettre de l'huile déjà dans l'eau de cuisson pour ça vaut aussi pour les pâtes, hein, ouais, pour les spätzli, les knöpfli. Est-ce que c'est vrai que si on met de l'eau gazeuse dans la pâte ou de la bière dans la pâte à spätzli, knöpfli, ça gonfle mieux une fois qu'on les cuit?
Tout à fait. C'est un peu comme la pâte à beignets ou d'autres préparations. Hein. Ça va donner un petit peu de gaz carbonique, donc ça va donner de la légèreté. légèreté, ça va faire gonfler un petit peu plus la pâte. Donc on aura quelque chose d'un petit peu plus moelleux à la, au final.
Brigitte Streif, vous les assaisonnez comment, vous, à la fin, les spätzli, quand ils chantonnent dans le beurre?
Alors, le plus simplement possible, avec un peu de sel, un petit peu de poivre, et c'est tout.
Alors ça, c'est pour les spätzli. Comme ça, on a quand même donné quelques infos. Il va l'incornu. Hein. Je crois qu'on peut pas non plus dire aux gens d'arrêter de manger des spätzli avec la chasse. C'est complètement, ce serait complètement
voilà,
illusoire.
Voilà, on a rempli le mandat.
On a rempli le mandat.
Mais on peut s'écarter aussi.
Parlons un peu de ces garnitures chasse revisitées. Les gnocchis, par exemple. Faire des gnocchis. Je sais pas qui veut prendre la parole sur ces gnocchis à la courge que vous proposez chez Parfum d'Épices à Crissier. Je vois vos yeux briller. Pour le coup, Jérôme Binder, comment est-ce que vous les faites, ces gnocchis à la courge pour vos menus chasse?
Alors, simplement, on va remplacer la pomme... Enfin, après, il y a les deux écoles. Les gnocchis, on peut les faire à la pomme de terre ou à la farine ou au blé dur. Là, en l'occurrence, on parle des gnocchis à base de pommes de terre ou de chair de pommes de terre ou de légumes.
Donc, c'est pas ceux à la semoule?
Non.
Ok, voilà, d'accord. Exactement. Donc, à base de pommes de terre. On commence par cuire des patates, on fait une masse
voilà,
à gnocchi, c'est ça?
Une pulpe de pommes de terre. Donc, on va cuire des pommes de terre en robe des champs, on va les peler, on va passer la pulpe à travers le moulin à légumes pour avoir vraiment de la pulpe. Et puis, on va intégrer alors un peu de farine. De toute façon, il faut intégrer à peu près 20%, 25% de farine dans la préparation pour amener de l'amidon pour que ça prenne ensemble. Et puis, voilà, un œuf, un jaune d'œuf, généralement. Après, il y a des écoles aussi, des théories, on met pas d'œuf, mais voilà, moi j'aime bien mettre un jaune d'œuf dedans. Et puis voilà, puis après on peut tout à fait remplacer la pomme de terre par de la courge, pareil, de la pulpe, de la farine. On va regarder par rapport à le côté aqueux de la courge, voilà, un petit peu, peut-être rajouter un petit peu plus de farine, faudra voir un petit peu la texture.
Ouais, parce que justement la courge est beaucoup plus humide qu'une qu'une patate.
C'est bien ça,
Brigitte.
Ça dépend de la variété de courge qui sera choisie.
Aussi, c'est vrai.
C'est important, oui.
Il y a peut-être des courges qui seront beaucoup plus aptes et beaucoup plus sèches si on veut bien. Oui. Même une fois qu'on les a cuites, elles vont rendre moins d'eau, c'est ça?
Si on prend la courge musquée classique qu'on trouve partout, elle sera un peu plus aqueuse de nature, mais si on prend un potimarron qui est déjà très farineux à la base, ça va aller beaucoup mieux.
Oui, Yvalin.
0800 108 208, on rend service au quotidien dont on parlait. On va répondre à Baba qui a laissé une question très courte à notre standard. Alors, on l'a déjà dit au début, mais vous avez sans doute raté le début. Il nous demande, ou elle, Baba, quelle est la différence entre knöpfli et spätzli? Alors, si j'ai bien compris, c'est exactement la même chose, sauf que les spätzli ont des formes de spätzli et les knöpfli
ont des formes de knöpfli.
Rond, quoi.
Exactement, mais ça dépend de la manière dont on les cuisine. Et c'est vrai qu'on peut expliquer un peu plus, hein, parce qu'on dit, ben voilà, gros volume d'eau, vous avez votre pâte, et puis vous le mettez dans l'eau, peut-être qu'on va un peu trop vite. Il y a pour les knöpfli cette râpe à knöpfli, hein. C'est une espèce de vous voyez les râpes, le fromage, hein, où les zestes c'est tout fin, pour le fromage râpé c'est un peu plus gros. Et là, Jérôme Binder, c'est carrément encore plus gros, la râpe à spätzli, sur laquelle on presse comme ça la masse qu'on a préparé au préalable.
Voilà, on fait sortir la masse à travers cette râpe qui a des petits trous, enfin qui va permettre justement de doser en fait la pâte qui tombe dans l'eau et puis d'avoir ces petits boutons finalement.
Donc ça, c'est les knöpfli. En revanche, c'est vrai qu'on l'a pas dit. On peut expliquer comment est-ce qu'on fait les spätzli à la maison. C'est un peu plus compliqué parce qu'il faut vraiment viser ces filaments. Comment vous faites-vous?
Alors, faut prendre une petite planche en bois. Vous êtes au-dessus de votre casserole, trempez la planche dans l'eau pour qu'elle soit un petit peu humide. Puis après, vous allez tartiner votre planche avec la préparation de spätzli et puis assez épais. Puis après, vous allez avec une petite maryse couper voilà des petits filaments, couper ces filaments directement dans l'eau et ça va donner la forme des spätzli, des petits filaments.
Et j'adore cette émission parce que on parle de gnocchi, on donne la recette, tout à coup on a une question, puis on parle de knöpfli et de spätzli, mais ne vous en faites pas, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. On va terminer la préparation des gnocchis à la courge d'ici quelques instants.
Pour envoyer vos messages vocaux par WhatsApp, Signal, Telegram ou Tréma, 076 206 12 12.
Et oui, le public est un peu bouche bée ce matin devant toutes nos recettes. N'hésitez pas à composer ce numéro également, le 0800 108 208, pour parler directement à la radio avec nos deux invités, Brigitte Streif et Jérôme Binder, Antoine Droux.
Oui, on parle de garniture chasse ce matin. C'est des multiples combinaisons, c'est des multiples parfums. On s'est quitté tout à l'heure en pleine recette de ces gnocchis à la courge, hein, que vous nous proposez de faire, Jérôme Binder, Brigitte Streif, ce matin pour remplacer peut-être un peu les spätzli, les knöpfli pour changer un peu d'air. Une fois qu'on a fait cette masse, donc qu'on l'a assaisonnée, qu'elle a la bonne consistance, c'est là que ça devient un peu, pas la punition, mais il faut prendre du temps pour façonner ces petits gnocchis. Comment est-ce qu'on fait, Brigitte Streif?
Alors, il y a plusieurs manières de le faire, mais je dirais que la manière la plus simple à la maison, déjà, on façonne des petits boudins, je dirais de l'épaisseur d'un doigt un peu plus gros que le mien, et en longueur, et ensuite on coupe des tout petits tronçons et on les cuira après dans l'eau. Mais on peut aussi évidemment le faire de façon plus traditionnelle, en faisant les rainures avec le dos d'une fourchette, avec les dents de la fourchette, ou alors en prenant les planches à gnocchi qui sont rainurées et qui sont faites pour ça. Alors oui, ça prend du temps, mais c'est des cuisines familiales, ancestrales, où on prenait le temps pour parler aussi autour d'une table et échanger en faisant la cuisine.
Et qu'est-ce que c'est bon, Jérôme Binder?
Oui, tout à fait. Et on n'a peut-être pas évoqué, mais on peut tout à fait remplacer la courge par du panais. Hein, on peut faire des gnocchis de panais aussi très bien. Justement, avec la chasse, ça fonctionne aussi très bien. Ou pourquoi pas avec la patate douce. Hein. Maintenant, on trouve beaucoup de patates douces locales qui poussent dans nos régions. Et c'est vrai que c'est sympa, ça a ce côté aussi un peu doucereux. Après, nous, on a aussi développé une recette de gnocchi à la pâte à douce et à la farine de riz pour les intolérants au gluten. Et alors, ça donne une texture un petit peu plus, voilà, un petit peu plus sableuse légèrement, mais c'est assez intéressant et ça reste assez ferme. Et ça peut être aussi une alternative pour ceux qui peuvent pas se nourrir avec du gluten.
La finition des gnocchi, généralement, ça peut se faire en gratin. Là aussi, vous les gratinez, vous les... Oula, je vois le regard courroucé de Brigitte Streif tout à coup. Non, alors je vais reposer la question différemment. Comment est-ce qu'on les finit? Comment est-ce qu'on les prépare pour les servir sur l'assiette une fois qu'on les a formés?
Ah, tout simplement avec soit une sauce ou du beurre.
Comme les spätzli, comme les
spätzli. Oui, absolument, une petite sauce. Ceux qui sont gratinés, ce sont les autres, ce sont ceux-là, la semoule.
Ah, d'accord. Bah, vous voyez, j'avais presque un peu juste. Mais quand même beaucoup faux.
Mais ça s'appelle la même chose.
Donc ça va, j'ai des circonstances atténuantes. Et puis on a un message. Jean-Marc, qui habite dans le canton de Fribourg, il nous dit: astuce pour que les spätzli ne collent pas, il faut rajouter un peu d'huile d'arachide dans l'eau de cuisson. Cuire les spätzli et les égoutter, normalement ils ne collent pas. Alors bon, on va pas ouvrir le débat là-dessus. Jérôme Binder, vous dites plutôt qu'il faut mettre l'huile d'arachide, le corps gras, une fois qu'on les a cuits, puis comme ça vraiment ils ne collent pas, parce qu'on les a refroidis juste en sortant de l'eau de cuisson, c'est bien ça?
Oui, c'est important de peut-être avoir une eau froide avec des glaçons aussi, qui permettra vraiment de couper vraiment tout de suite la cuisson, puis qui ne colle pas les uns les autres.
Vous avez pris, parce qu'on va parler de fruits aussi, Yvalin Cornu ce matin, vous avez pris un chutney de pruneau avec vous, Brigitte Streif. Il y a une étiquette dessus, Slow Food Presidio. Oui. C'est un de ces produits que vous défendez dans le mouvement Slow Food, dans l'organisation Slow Food dont vous faites partie.
Absolument. Ces pruneaux sont en fait font partie d'un paysage. Ce sont des pruneaux à haute tige, des pruniers à haute tige. Ils font partie d'un paysage du Jura tabulaire, et c'est ce paysage de pruneaux à haute tige, de pruniers à haute tige, pardon, qui est protégé et par Slow Food et par des agriculteurs sur place, pardon, des producteurs sur place. Ces pruneaux sont évidemment plus difficiles à cultiver, parce qu'il faut les cueillir à la main. On peut pas passer avec les tracteurs dessous en allant les chercher comme ça. Ils ont des goûts incroyables et ils sont maintenant mis en valeur par une femme extraordinaire qui s'appelle Dora Maier, qui sèche justement ses fruits, qui en fait des pruneaux séchés, qui en fait ce chutney extraordinaire, qui fait aussi des pruneaux en compote. Et je précise que ces produits, pour la plupart, sont tout à fait trouvables dans les coop, soit coop online, soit coop dans les grandes, parce que coop est donc un nous soutient, et c'est notre moyen de distribution pour faire connaître ces produits qui autrement resteraient trop niches et trop localisés.
0800 108 208, si comme Jean-Marc et Baba, vous avez des remarques, des questions autour des garnitures chasse, peut-être sur ces chutneys. Est-ce qu'on peut dire simplement, Brigitte Streif, la différence entre un chutney et simplement une confiture? Est-ce que c'est pas juste de la confiture qu'on mange avec de la viande?
Alors, qu'est-ce qu'on entend par confiture?
Je vois dire, mais le pauvre, mais qu'est-ce qu'il raconte?
Confiture, c'est un fruit qui est confit.
Ok, avec du sucre.
Avec du sucre.
On la cuit longuement, voilà. Mais que avec du sucre. On rajoute peut-être un peu de pectine pour avoir une consistance un peu différente.
Absolument.
C'est une confiture qu'on mange le matin sur les tartines. Voilà. Pardon, là, le chutney, le petit goût de vinaigre qu'il y a derrière, les épices qui pepsent tout ça, le matin au petit-déj sur une tartine, ça peut surprendre.
Les goûts, les couleurs, c'est vrai. Ne se discutent pas.
C'est vrai aussi. Mais le chutney, alors, la particularité?
La particularité, c'est qu'il y a de l'oignon, il y a des épices, il peut y avoir du gingembre, il peut y avoir des raisins secs, il peut y avoir... ça cuit longtemps. Là, il est un petit peu mixé. On peut aussi le garder avec de la mâche, avec les fruits qui sont bien coupés en morceaux. Et puis, on joue un petit peu avec les fruits. On prend de la pomme, parce que la pomme est aussi un très bon liant. On peut rajouter du coing. On peut faire des chutneys, simplement des chutneys d'oignons rouges et de figues. Mais on peut faire, effectivement, le pruneau s'y prête très bien. Le chutney de coing, ça se prête très bien aussi.
C'est la saison, d'ailleurs, les coings.
Les coings ont été récoltés un peu plus vite cette année, vu la météo. Mais oui, c'est le moment de savourer ces fruits absolument magnifiques.
En deux mots, un chutney de coing, alors on coupe nos coings, on le fait confire avec du vinaigre, de l'eau d'abord.
De l'eau, le coing a besoin d'eau pour cuire. S'il doit être confié en chutney, il faut un petit peu de sirop, tout en gardant l'acidité aussi à côté, absolument. Et puis confire, et puis avec un peu de sucre ou de miel ou de birnel, qui est cette mélasse de poire.
Mélasse de poire.
Mélasse, c'est une sorte de mélasse de poire suisse.
Birnel,
voilà, absolument, qui remplace le miel dans pas mal de cas. Et on fait vraiment cuire assez longtemps pour que ça puisse confire.
Jérôme Binder, c'est chutney. Alors celui-là, il a un goût très, très puissant comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met juste une petite cuillère ou est-ce qu'on met le pot sur la table et chaque convive se sert avec, pour agrémenter son civet ou sa selle ou son perdreau ou sa volaille de chasse, que sais-je? Ou est-ce qu'on l'intègre, ce chutney, dans une préparation?
Alors, ça peut s'intégrer, effectivement, pourquoi pas, si on veut être plus traditionnel, le mettre en remplacement de la confiture, sur les petites pommes ou les petites poires, c'est tout à fait possible. Moi, j'aime bien les servir plutôt en condiment, guider un petit peu le dégustateur dans son assiette avec des... On a souvent ces discussions, on rigole pas mal avec Brigitte. Les petits points, mais c'est vrai que des fois, les petits points vont permettre...
C'est quoi les petits points?
Les petites touches comme ça. Ça va guider aussi, finalement, le consommateur dans son assiette, hein, si on parle vraiment de clients de restaurant. Comment intégrer peut-être ce condiment avec, avec quelle garniture ou... Enfin voilà, ça souvent où c'est mis dans l'assiette, ça lui donner une indication. Mais après, voilà, il faut pas non plus en abuser, ça reste très sucré, très doux. Pareil avec le sirop d'érable et l'ananas, hein, c'est des petites touches comme ça. Mais on peut se permettre de jouer le sweet and sour sur la chasse.
On a quand même un auditeur, Romain, par WhatsApp, qui vous cueille un petit peu au passage, parce qu'il vous dit, ok, alors les produits de saison, tout ça, présidie, c'est super, mais bon, de l'ananas, c'est ni local, ni de saison, dit-il par WhatsApp. Vous lui répondez quoi, Jérôme Benin?
Alors, effectivement, mais on travaille aussi, nous, avec une fondation, Terre Espoir, qui travaille avec l'Afrique et puis qui amène des magnifiques fruits tropicaux ici. Ils sont basés à Bussigny et qui sont durables, qui ils refinancent des infrastructures sur place. Et c'est vrai qu'on a, voilà, on cherchait depuis un petit moment, voilà, avec qui on pouvait travailler sur ces petits condiments. Et là, on parle de condiments, hein. Sur ce qu'on essaie de partager tous les jours avec nos clients, c'est la saison, c'est le produit local. Mais voilà, de jouer avec des petits condiments et un petit touche d'ananas comme ça, c'est sympa aussi. La cuisine, c'est aussi se faire plaisir tout en étant durable et juste. Mais voilà, si jamais Terre Espoir à Bussigny, ils font des super fruits tropicaux.
Merci beaucoup pour cette réponse, Jérôme Binder. 0800 108 208. Nous avons Michel en ligne de Genève. Bonjour Michel.
Oui, bonjour. Ce que je fais aussi parmi d'autres garnitures, je prépare du sirop de grenadine et je cuis dans ce sirop de grenadine, je fais cuire et je mets des petits oignons sauce que j'ai pelés. Ça donne une jolie couleur aux oignons et puis c'est pas mauvais non plus.
Ben écoutez, on va soumettre cette idée à nos deux invités. Merci beaucoup Michel. Mais une petite précision quand même, donc c'est bien les oignons frais, hein, c'est pas du tout les oignons au vinaigre qu'on sert avec la raclette que vous égouttez et que vous
mettez
dans
la grenadine. Parce que c'est exactement ce que j'avais en tête.
D'accord. Donc c'est pas ça, Michel, on est bien d'accord. C'est vraiment les oignons frais.
C'est des petits oignons frais, ces petits oignons sauce qu'on trouve, et puis on les pèle. Ils sont frais, ces oignons, n'est-ce pas?
Oui, oui, bien sûr, je vois lesquels, ouais.
Voilà, on les pèle, on chauffe la grenadine, et on met les petits oignons dedans, et puis ils prennent la couleur, puis c'est pas mauvais non plus, et puis ça donne une jolie couleur à côté des autres garnitures.
Merci, voilà. Michel, ben, ça a l'air très bien. Brigitte Streif, c'est original de prendre des oignons comme ça, ça leur donne un goût peut-être un peu plus doux, plus caramélisé, avec un sirop.
Ah, tout à fait, bien sûr. Et puis, on appelle ça les oignons grelots, du reste.
Les oignons grelots, oui. Voilà. Je cherchais le nom. J'avais Zilbertzwiebeln en tête. C'est comme ça, je crois qu'on dit
les oignons grelots,
en allemand, les oignons grelots. C'est très intéressant aussi, peut-être, pour ces garnitures chasse, oui. de les sucrer un peu, de les caraméliser. On pourrait imaginer de les sauter peut-être un peu avant.
On peut faire un petit caramel sec. On peut déglacer on peut décuire avec un petit peu de beurre. Puis après, les faire sauter dans ce mélange avec un peu de fleur de sel, de nouveau un peu de piment d'Espelette pour rehausser le tout. Alors c'est un peu le même principe qu'avec les châtaignes, pourquoi pas finalement. Hein. Châtaignes ou oignons, un petit peu dans le caramel. Après, les châtaignes ont besoin d'un peu plus de cuisson. Enfin, quoique les oignons, si on prend les petits oignons grelots, ils ont besoin de cuire aussi un petit peu. Donc on peut rajouter un petit peu de bouillon de légumes et puis gentiment faire évaporer tout ça. Et vous aurez quelque chose de caramélisé.
On concentre les saveurs.
On concentre les saveurs, exactement.
On a parlé des féculents, on a parlé des fruits. On passera aux légumes qui accompagnent la chasse dans un instant après. Rosalia, continuez de nous appeler à notre standard au 0800 108 208. On vous écoute encore dans ce dernier quart d'heure de guichet spécial garniture chasse ce matin.
Le guichet dont on parle, 0800 108 208.
Dernière ligne droite pour composer le 0800 108 208. Nous parlons depuis 9h de garniture chasse. Antoine Drou avec nos deux invités, Brigitte Streif et Jérôme Binder. On a parlé des spätzli, des knöpfli,
des gnocchi,
tous les féculents de la chasse, on va dire, et leur déclinaison. On a parlé aussi de fruits pour accompagner de chutney, de variantes classiques ou plus originales. Et il nous reste bien sûr les légumes.
Avec notamment cette mousseline de panais au curry dont je parle depuis 8h36 ce matin. Comment est-ce qu'on fait une mousseline de panais au curry? Vous l'accompagnez, vous l'utilisez, vous la servez avec des médaillons de serre, Jérôme Binder.
Oui, c'est tout simple. Hein, le panais, déjà le panais...
Cette racine blanche
voilà,
hein, qui a un goût de persil.
Qui ressemble un petit peu comme une carotte. Hein. Oui, qui a des goûts de persil, qui a des goûts un petit peu sucrés aussi. Enfin, c'est vraiment particulier. Nous, on l'utilise depuis bien, bien longtemps dans les ateliers, mais c'est vrai que les gens ont plaisir à le redécouvrir. Et il y en a peut-être qui ont des mauvais souvenirs du panais d'enfance, je ne sais pas. Mais c'est tellement bon. Et il suffit de peu de choses. Hein. Vous allez cuire votre panais alors à la vapeur ou dans un petit bouillon, éviter de surnager le légume dans trop d'eau à ce moment-là. Et puis, surtout quand on fait des... Voilà, mais mettre un petit peu de bouillon de légumes dedans. Et puis après, on va simplement le mixer avec un petit peu d'eau de cuisson pour lui donner un peu de texture, du beurre. Puisqu'on est en saison, on peut se permettre. Et puis, après, on peut rajouter des épices, que ce soit avec le panais, on peut mettre un peu de curry, ça va très bien. On peut partir aussi sur le céleri, même chose, hein. Aussi avec soit du curry, soit de la coriandre en poudre, qui va très très bien, qui est très subtile, qui est très très légère derrière. Ça va bien fonctionner. Et puis aussi, on peut se permettre de, si on veut travailler quelque chose d'un petit peu plus traditionnel, sur le céleri, on peut mettre un peu d'huile de noix. De noix de Sèvres, par exemple, qui est un beau produit. Brigitte peut en parler aussi. C'est un produit présidé aussi avec des noix vaudoises.
Alors oui, l'huile de noix, c'est pas l'huile de noix que Slow Food protège, ce sont les noyers, les noix vaudoises qui étaient en disparition parce que plus personne n'avait envie de travailler, de gérer, de cueillir et de récolter les noix vaudoises. Et le moulin de Sèvres fait une noix Presidio Slow Food avec uniquement des noix vaudoises et elle a un goût absolument extraordinaire, torréfiée à l'ancienne.
Qu'on peut mettre avec ces légumes racines. Alors, ils sont plus oubliés maintenant. Je crois qu'on faut
arriver.
On peut gentiment arrêter de dire que ce sont des légumes oubliés.
Non,
parce
qu'on
les trouve vraiment partout. À beaucoup d'endroits. On a parlé du panais, on a parlé du céleri. Oui. On peut parler de la racine de persil aussi. Ou est-ce que c'est trop fort, ça, Brigitte Streif, pour l'utiliser dans un menu chasse?
C'est tout aussi fort que le panais, en fin de compte. Ce sont des racines qui ont des caractères bien présents. Donc, après, c'est une affaire de goût. On peut aussi atténuer un tout petit peu en mettant de la pomme de terre, par exemple.
On a parlé jusqu'ici beaucoup de goût, pas beaucoup de texture. Pourtant, c'est important dans une assiette, Jérôme Binder. Comment est-ce qu'on peut faire pour... Parce que on a des choux braisés, souvent avec la chasse. On a des légumes cuits, on a des spätzli, on a des choses qui sont parfois un peu molles. Comment est-ce qu'on peut ajouter un peu de croquant dans ces assiettes chasse?
Alors, le crumble, voilà, c'est une préparation à base de beurre, de farine, d'amandes ou de lagineux. Qu'on peut cuire au four et qu'on va un petit peu égrainer comme ça dans l'assiette. Donc ça, c'est la base, en fait, du crumble. Mais après, on peut aromatiser un crumble avec des épices, justement. Le garam masala, comme je disais en ouverture d'émission, ou le rasellanout, c'est des saveurs qui fonctionnent bien avec la chasse, un petit peu cette odeur de sous-bois. Moi,
C'est très oriental, pourtant, rasellanout.
Ouais, mais avec le champignon aussi, ça fonctionne très très bien. Si on fait une petite poêlée de bolet ou de chanterelle, et puis on va mettre un peu de rasellanout, ça va fonctionner super bien avec la chasse. Mais après, pour rebondir sur le crumble, voilà, on peut l'aromatiser avec un ce mélange, ou partir plus traditionnel avec des noix simplement ou des noisettes, ou simplement torréfier des noisettes au four, quelques minutes, 10 minutes comme ça à 180, qui sont pelées bien entendu. Et puis après vous les concassez, ça donne une saveur, torréfiée dans l'assiette, c'est tout simple, c'est excellent.
Alors il y a Jean-Marc du canton de Fribourg qui nous dit qu'il faut faire un chutney de griotte, rajouter des noisettes concassées et grillées et parfumer le tout d'alcool d'alizé. Voilà, petite astuce de Jean-Marc qui a composé le 0800 108 208 pour laisser ce message à notre standard. Jérôme Binder, Brigitte Streif, alors toutes les recettes d'accompagnement de la chasse, vous arrivez à leur trouver une petite originalité. Je suis sûr qu'on va arriver à vous coincer sur le chou de Bruxelles, parce que là, je vois pas comment faire d'autre que les jeter dans l'eau et d'espérer qu'ils soient pas trop mous à la sortie. Il y a pas mille façons de faire le chou de Bruxelles.
Oui, il y a plein de façons de le faire. Après, c'est vrai qu'on a eu cette discussion l'année dernière, on a bien rigolé quand on réfléchissait un petit peu au menu de fête de l'année dernière. Pas la chasse, mais finalement ça peut s'accompagner très bien aussi avec la chasse. Alors oui, on peut le faire traditionnel. Alors si on le fait traditionnel à l'eau, il faut pas le surcuire, c'est maximum 10 minutes de cuisson, puis surtout bien le rafraîchir après pour qu'il garde sa fermeté, sa couleur, et puis après le sauter un petit peu au beurre. Mais voilà, c'est vrai que ça, on l'a vu, et c'est pas forcément, en tout cas personnellement, ma tasse de thé ou notre tasse de thé ici autour de la table.
On a le temps de prendre un tout dernier appel au 0800 108 208. C'est Zosia d'Yvorne qui nous appelle. Bonjour.
Oui, bonjour, c'est Zofia avec un S.
Zofia, pardon, merci.
Je vous téléphone, oui, pour vous parler d'un légume que je cultive dans mon jardin qu'on appelle chourave en Suisse. En France, c'est la rutabaga. Qui est un ancien légume que j'adore et que je prépare pour la chasse en purée avec pommes de terre. Donc je mets 2/3 de rutabaga, 1/3 de pommes de terre. Je le cuis et puis j'assaisonne avec surtout un peu de beurre, un peu de crème et puis la noix de muscat.
Merci, original, Zofia, pour cette recette, le rutabaga. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, Antoine.
Oui, c'est intéressant parce que ça rappelle aussi qu'on peut atténuer peut-être le goût parfois un peu fort de ces racines avec de la pomme de terre.
Oui, tout à fait.
Et puis, si on a encore le temps, Yvalin, pour un tout petit mot à propos des choux de Bruxelles. Parce qu'en préparant l'émission, Brigitte Streif m'avait dit qu'on pouvait servir les choux de Bruxelles crus avec la chasse. Comment est-ce qu'on les fait? Et on finit sur cette note de fraîcheur-là.
Alors le chou de Bruxelles, comme tout le monde, c'est horrible quand c'est trop cuit. Et là, on prend des très jolis choux de Bruxelles, on enlève les feuilles extérieures, on garde le cœur, on les mince, on met une vinaigrette à base de verjus ou de jus d'orange, de l'huile de noix, quelques noix concassées, un peu de fleur de sel, de piment d'Espelette, et ça rafraîchit l'assiette de chasse. C'est délicieux.
Chou de Bruxelles en salade.
Magnifique. Et puis Marianne conclut également par message que les garnitures chasse, c'est tellement bon que de plus en plus de restaurants proposent carrément l'assiette chasse sans la viande. C'est très apprécié aussi, Brigitte Streif.
C'est très très apprécié. On n'a pas parlé du topinambour aussi, que je saute encore dessus, parce que le topinambour cru aussi en tartare, ne pas hésiter à le travailler aussi de manière rafraîchissante. Et puis, cuit, c'est délicieux avec du chocolat.
Topinambour cuit avec du chocolat. Je vous vois encore réagir.
C'est vrai qu'on peut faire aussi un petit millefeuille, justement, de tous ces légumes racines ou ces légumes anciens, avec pommes de terre, panais, justement, tout ce qu'on a dit, effectivement, et faire une petite préparation à base de crème, d'œufs et puis de cuire ça en millefeuille au four comme ça, c'est excellent. Hein. On peut mettre du butternut aussi, et voilà, faire créer des petites couches avec ces différents légumes. Et ça accompagne très très bien aussi la chasse. Effectivement, et le topinambour dans ce millefeuille apporte toute la petite touche originale, des saveurs d'artichaut comme ça.
Du boulot ce week-end.
Oui, merci beaucoup Jérôme Binder, fondateur de Parfums d'épices à Crissy, et à vous Brigitte Streif, présidente Slow Food Vaud. On vous souhaite à tous les deux une très bonne journée.
Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.